Cet été, Paris va vibrer au rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques et chez YoBureau, on a hâte d'y être. Acteur pionnier du bien-être et du sport en entreprise, YoBureau accompagne depuis maintenant 7 ans des entreprises partout en France pour des programmes qualité de vie au travail sur mesure. À l'occasion des Jeux Olympiques, nous prévoyons un programme spécial autour d'ateliers dans la peau d'un athlète, des sessions de sport et des conférences animées par des sportifs de haut niveau. C'est aussi l'occasion pour nous de mettre en avant celles et ceux qui seront au cœur de cet événement mondial. Sportives et sportifs, organisateurs, partenaires et bien d'autres. Je suis Estelle de chez YoBureau et je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule spéciale JO du Café des Sports.
Il faut savoir manger son pain noir pour apprécier les succès après. Une phrase que Kenric Jean-Joseph chérit et n'oublie pas, car elle vient de sa mère. On comprend tout de suite la façon de penser et la détermination de cet athlète de haut niveau, en équipe de France d'escrime, mais également à l'INSEP, champion du monde junior en 2021 et double champion du monde universitaire depuis 2023. En plus de tout ça, étudiant à l'EM Lyon en commerce. Rien que ça. Vous direz peut-être que c'est impossible de faire tout ça en même temps, mais impossible n'est pas dans le vocabulaire de Kenric. C'est pourquoi je suis ravie de le recevoir pour lui poser toutes mes questions et vous offrir un vrai boost de motivation. Bonjour Kenric.
Bonjour.
Enchantée. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour répondre à mes petites questions pour cette nouvelle rubrique du Café des Sports sur les JO.
Merci beaucoup de l'invitation.
Tout le plaisir est pour moi. Pour commencer, on va commencer léger. Une petite question que j'aime bien poser. Quel est ton premier souvenir lié au JO ?
Mon tout premier souvenir lié au JO, je pense que c'est un rapport avec Usain Bolt, bien sûr. Quand il gagne pour la toute première fois. Moi, j'étais vraiment tout jeune, donc je regardais avec mes parents et je me disais, bon, ça m'a fait rêver. Et si j'en ai un deuxième quand même qui me tient vraiment à cœur, c'est quand même la victoire d'équipe de France d'escrime en 2016, où là j'étais un peu plus grand et j'étais un peu en âge de comprendre. Et ça m'a vraiment fait rêver. Je me suis dit, un jour, j'espère que je serai partie d'une équipe qui gagnera les JO pour la France. Donc ça m'a vraiment fait rêver. Et je pense que c'est l'un des souvenirs des Jeux qui me tient le plus à cœur, cette victoire en 2016.
Super. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on va retracer un petit peu tes débuts, ta carrière, ta vie, tes études, le tout jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour commencer, on commence sur ta jeunesse. Donc, tu nais en Martinique. Comment se passe ta jeunesse ?
Alors, je suis né en Martinique, précisément à Chelles-Cher, en 2001. Donc, j'ai actuellement 22 ans, je vais sur mes 23 ans. Et donc, j'ai vécu en Martinique jusqu'à l'âge de mes 15 ans. J'ai commencé l'escrime à 7 ans. Donc, pourquoi j'ai commencé l'escrime ? Tout simplement parce que je bougeais énormément quand j'étais petit. J'avais du mal à me canaliser, à rester assis sur une chaise à l'école. Enfin, j'étais, on va dire, un enfant un peu turbulent. Et mes parents m'ont emmené voir un médecin pour m'aider à me concentrer en classe. Et du coup, ce médecin, il m'apprenait à discuter avec les gens, à rester calme, à rester assis sur une chaise. Et il leur a conseillé l'escrime, du coup, pour me canaliser. Et je pense que ça a bien aidé, mais ce qui m'a vraiment fait continuer, c'est le fait qu'on me dise si tu deviens meilleur, si tu deviens bon, tu pourras partir dans l'Hexagone, continuer ta passion, tu pourras prendre l'avion. Parce que j'étais petit, j'étais passionné d'avion et je me disais juste, quand je serais fort en escrime, je pourrais prendre l'avion tout le temps. et du coup, ça me faisait vraiment rêver et c'est comme ça que j'ai continué. Et j'ai vraiment gravi les échelons petit à petit, où je suis rentré en Pôle Espoir Martinique à l'âge de 12 ou 13 ans. Donc, c'est vraiment le pôle des jeunes. Et à 15 ans, j'ai eu un gros choix à faire, qui est pour moi le choix de ma vie jusqu'à maintenant. C'était soit de partir dans l'Hexagone, du coup à 8000 km de ma famille, de mes amis, de mon île natale, soit partir en Guadeloupe au Crêpe Saint-Illuan qui est à 45 minutes en avion, donc beaucoup plus proche. Et sauf qu'à cette époque, j'avais ma marraine du coup qui était sur Lyon, et à cette époque le CRIFET de Lyon, du coup le pôle espoir de Lyon, était un des meilleurs pôles de France, donc j'ai pas hésité et j'ai toujours aimé la concurrence, me dire que je m'entraîne dans le meilleur groupe, donc je me suis dit allez.
T'as fait le grand pas.
J'ai fait le grand pas, ouais.
Impressionnant, c'est vrai qu'à cet âge-là, ça doit être un gros changement. Et donc l'escrime, ça devient du coup de cette intervention du coup avec le médecin. Mais est-ce que tu as fait d'autres sports avant ou c'était vraiment le premier?
J'ai fait énormément de sports avant. Vraiment, je fais du basket, du foot, c'est classique. J'ai fait du karting aussi. J'aimais beaucoup. Le dimanche, mon père m'y emmenait. C'est quelque chose. Et je pense que, bon, je suis un petit peu grand pour faire de la Formule 1. Mais je pense que si j'avais pas fait d'escrime, c'est un sport que j'aurais aimé faire de la Formule 1 ou, j'étais passionné de motocross aussi. Mais mes parents, ils ont jamais voulu que je fasse de la motocross. Donc, j'ai fait du karting et j'aimais beaucoup ça. Et j'ai fait de la voile, j'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, du karaté, du vovinam aussi. J'ai fait énormément de sport.
Ah oui, un vrai passionné.
Ouais, mais
très curieux.
Souvent je commençais, mais on va dire que j'étais un petit peu casanier ou j'étais content d'y aller. Quand j'y étais, j'étais content d'y aller. Mais après, le week-end, la semaine d'après, j'étais pas en mode, je vais y retourner, tout ça. C'est vraiment avec l'escrime où vraiment je me disais chaque semaine, je vais y aller, quoi. Quand j'étais à la maison, je jouais avec mes fleurets, je m'entraînais sur le fauteuil. Enfin, c'est vraiment l'escrime qui m'a vraiment passionné.
C'est vrai que vu que tu grandis en Martinique, le temps extérieur est très bon. Donc, on pourrait s'imaginer que tu fasses peut-être plus un sport d'extérieur. Pourquoi l'escrime t'intéresse autant du fait que ce soit à l'intérieur?
Ben, c'est vrai.
C'est particulier.
c'est une bonne question. En Martinique, franchement, même jusqu'à maintenant, je me demande mais comment j'ai fait vraiment pour kiffer ça parce que on y est retourné l'année dernière en Martinique pour un stage avec l'équipe de France et je me suis rendu compte qu'il fait super chaud en fait. Quand on est en tenue d'escrime sur le masque, il fait vraiment super chaud. Et je me suis posé la question mais comment je faisais pour m'entraîner tous les jours comme ça alors qu'il faisait super chaud. Donc ouais, c'est... Je pense que c'est la passion, hein. Vraiment. J'ai vraiment accroché directement. Et puis, comme je disais, le fait qu'on me dise tu pourras partir et t'envoyer, parce que j'adore la Martinique, mais j'ai toujours rêvé d'aller voir ailleurs, d'aller voyager dans le monde depuis tout petit. Et donc, je pense que c'est quand on me l'a dit, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment donné envie de continuer, en fait. Et malgré le fait que ce soit un sport intérieur et que j'aurais pu aller à la plage avec les copains à la place.
Une preuve de grande détermination encore. j'ai fait un petit peu mes recherches sur l'escrime au JO et ils arrivent donc en 1896 avec du coup les combats au fleuret, au sabre et à l'épée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences? C'est vrai que moi qui ne suis pas experte en escrime, je comprends pas forcément, donc éclaire-nous.
Alors tout d'abord, franchement, l'escrime c'est très très simple. Vraiment, on a l'impression qu'il y a beaucoup de règles, mais c'est pas si vrai que ça. Quand on s'assoit et qu'on regarde un match d'escrime, en fait il y a trois armes. Il faut vraiment distinguer les trois armes. Je vais commencer du coup par la plus simple, celle que je pratique. C'est la plus simple à comprendre. Donc c'est l'épée. L'épée, je vois l'épée vraiment comme un peu de la boxe en fait. C'est vraiment le principe de l'épée, c'est vraiment toucher sans se faire toucher. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de priorité, contrairement aux autres armes. On va discuter après, on va en parler après. Mais vraiment, l'épée, c'est vraiment, on peut toucher tout le corps, de la tête aux pieds. Et c'est, les matchs, c'est en 15 touches. On peut toucher de la tête aux pieds et si les deux touchent en même temps, c'est point pour les deux. Donc vraiment, c'est vraiment un jeu un peu d'échecs, tendre des pièges pour faire croire à l'autre que je suis avec lui. Au final, je le touche et ensuite, je m'en vais. Donc c'est vraiment mettre un point, s'en aller. C'est comme de la boxe. C'est toucher sans se faire toucher. Et du coup, ce qui est différent avec les autres armes, du coup, par exemple, on va passer au fleuret. Le fleuret, c'est un peu le même principe où il y a vraiment ce jeu de toucher avec la pointe sans se faire toucher. Parce que du coup, on touche vraiment avec la pointe. Sauf qu'au fleuret, on peut toucher seulement le ventre. Enfin, le tronc. Le ventre et le dos, du coup. Et ce qui est différent avec l'épée, du coup, c'est que il y a une question de priorité, en fait. Et la priorité, en fait, c'est le premier qui avance. Si les deux touchent en même temps, la touche sera seulement pour celui qui fait le mouvement en premier vers l'avant. Donc ça c'est pour le fleuret. Et le sabre, c'est on touche avec la lame. Du coup, la lame et la pointe, contrairement à l'épée ou le fleuret où on touche seulement avec la pointe. Et le sabre, on peut toucher le masque et le tronc. Donc, mais il y a toujours cette histoire de priorité comme au fleuret où ce sera celui qui avance qui aura la priorité. Et du coup, si les deux touchent en même temps, ce sera seulement celui qui fait le premier mouvement vers l'avant.
Ok, très bien. Voilà. Très clair.
J'espère que j'ai été clair.
Très clair.
C'est vraiment très, très simple. Merci. Et quand on regarde avec les explications, on comprend directement.
Ok. Et donc, du coup, pourquoi toi, tu te portes sur l'épée?
Alors, pourquoi je me porte sur l'épée? Parce que quand j'étais plus jeune, les grands dans mon club, ils faisaient de l'épée. Et du coup, j'ai tout de suite rêvé, du coup. Et puis, il y avait de grands, grands champions martiniquais, comme les frères Jeannet, les frères Lucenay, qui faisaient de l'épée. Et moi, ça m'a fait rêver parce que, du coup, juste voir l'arme, je me disais, waouh, c'est l'arme des grands et j'ai trop envie de faire comme les grands. Donc, directement, okay. Je me suis penché dessus et j'ai accroché direct.
Ok, top. Et donc, explique-nous un petit peu comment ça se passe. Donc, quand tu arrives à 15 ans, tout seul, en métropole, comment ça se passe?
Alors, comment ça se passe? Ben, pour commencer, tout d'abord, je suis vraiment arrivé, j'avais des étoiles dans les yeux. Je me suis pas vraiment, la première année, je me suis vraiment pas rendu compte que j'étais en France. Je me suis juste dit, je suis parti faire de l'escrime. J'avais vraiment l'impression que c'était un peu un stage d'escrime, parce que je faisais souvent des stages d'escrime l'été, et j'avais vraiment l'impression que c'était un stage d'escrime qui a duré un an. Où j'étais l'impression d'être dans le stage d'escrime pendant un an.
Le rêve.
Ouais, vraiment, où je faisais de l'escrime avec mes potes et tout, et puis c'était les meilleurs escrimeurs en France à l'époque de l'orage. Et, j'étais juste content d'être là, j'avais des étoiles dans les yeux, je réfléchissais pas, j'allais à l'école, puis j'allais à l'escrime. Donc j'avais juste des étoiles dans les yeux en fait. Là où vraiment je suis redescendu un peu sur terre, c'est la deuxième année. Quand je suis reparti, je suis rentré à Martinique pour les vacances et que je suis revenu l'année d'après, je me suis dit, ah oui, là du coup, ouais, je suis vraiment parti. Là c'est vraiment fini la Martinique, là c'était pas juste un stage de 9 ans. Là ça devenait vraiment ma vie. Et c'est vrai que c'est la deuxième année qui a été la plus compliquée, je trouve, en termes d'adaptation, où le froid, le manque de la famille, le manque des amis aussi, le manque, le climat aussi, clairement. Donc, c'est vraiment cette deuxième année qui a été un peu compliquée, mais ça m'a forgé, en fait, pour la suite, et ça m'a donné encore plus envie, parce que quand c'était difficile, souvent ma mère, elle me disait, Kendrick, oublie pas pourquoi t'es parti, regarde tous les sacrifices que tu fais, tu peux pas abandonner. Enfin, ma deuxième ou troisième année, en décembre, quand je rentre en Martinique, je dis à ma mère, je crois que j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer. Et c'est là où elle me dit, tu peux pas rentrer, regarde ce que t'as déjà fait, tu peux pas abandonner, tu dois continuer. Et directement, ça m'a reboussé. Et quand c'est difficile, parce que je gagne pas tout le temps à l'inscrire, quand c'est dur et que ça fonctionne pas, je me dis, mais Kendrick, regarde tout le chemin que t'as déjà fait, regarde d'où tu viens et regarde où tu es. Et aussi, regarde tout ce que tu as encore à faire. Et je me dis juste, je peux pas m'arrêter là. Donc, ça me rebooste et ça me donne envie de continuer.
Super inspirant. Et donc, au niveau des études, tu dis qu'en même temps, tu fais encore l'école. Donc, tu te penches vers le commerce. Tu fais une licence en économie à l'Université de Paris-Nanterre, puis un bachelor en management à l'EM Lyon. Le commerce, c'était quelque chose qui te plaisait. Comment t'imaginais ton futur à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, quand je fais mes études, surtout quand j'étais au Crêpes à Reims, j'étais en licence d'éco. Ça me passionnait pas plus que ça. Moi, j'aimais surtout l'escrime, hein, clairement, ça me passionnait pas plus que ça. Et c'était vraiment juste histoire de faire un diplôme, vraiment, quand j'étais en licence. Et parce que je me voyais pas juste faire que du sport. Et je voulais pas faire comme les autres qui faisaient escrime, staps. Et j'avais envie de faire autre chose que du sport tout le temps. Pour voir d'autres personnes, des personnes différentes, rencontrer du monde qui viennent de milieux différents. Donc, j'avais envie de faire, découvrir d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai fait cette licence d'éco. Malheureusement, quand je suis arrivé à l'INSEP, c'était un peu plus compliqué, parce que du coup, ma troisième année, c'était un peu plus compliqué. Je suis arrivé en troisième année de licence d'éco quand je suis arrivé à l'INSEP. Et du coup, je suis arrivé à Nanterre. Et Vincennes, Nanterre, c'est un peu loin. Et j'ai eu du mal un peu à suivre les cours. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis réorienté et que j'ai commencé du coup un bachelor à l'EM Lyon. Et là, directement, c'était top parce que c'est une école qui s'adapte aux sportifs et qui nous accompagne. Et même après l'obtention du diplôme, ils nous accompagnent et ça, c'est top. Donc, j'ai hâte d'obtenir mon diplôme chez eux et voilà.
Top. Et donc, tu parles de l'INSEP, donc l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Comment ça se passe là-bas? Donc, tu y es depuis maintenant plus de 2 ans, c'est ouais. Ça
ouais, j'ai commencé ma troisième année.
Ok. Super. Et donc, comment ça se passe? Les entraînements, le recrutement, quel est tout le processus?
Alors, tout d'abord, avant de rentrer à l'INSEP, souvent le chemin classique, tous les jeunes passent par le Pôle France Relève. Nous, notre Pôle France Relève à l'EPEOM, du coup, dans ma catégorie et dans mon arbre, c'est à Reims. Donc, j'ai fait 3 ans au Crêpes de Reims et au bout de ces 3 ans, je fais champion du monde junior et en 2021. Et quelques mois après, il y a eu un changement d'entraîneur, du coup. Et c'était le retour de Hugo Bry, qui a fait champion du monde en 2016. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, c'était mon rêve, mon premier souvenir olympique. Et du coup, cet entraîneur-là est revenu et m'a appelé. Franchement, quand il m'a appelé, moi, j'étais en mode « Waouh, ok ». Donc, je n'osais même pas vraiment décrocher. J'étais en mode « Bon, ok, il faut que je lui réponde ». Et du coup, je décroche et il me dit « Bon, ben, du coup, t'es pris pour l'INSEP, tout ça. Et, mais il me dit bien, t'as tête accrochée parce que cette Olympiade, elle sera dure. » Directement, parce qu'il m'explique que de base, ce qu'il voulait, c'était vraiment un groupe fort et il voulait vraiment resserrer le groupe au maximum pour être le plus performant possible. Donc, il me dit « Je te prends, mais t'as tête accrochée. » Et directement, moi, c'était un challenge. Quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, Kendrick, tu dois te battre tous les jours pour ta place, quoi. Et c'était hyper motivant. Et jusqu'à maintenant, bah, j'y suis. Et je pense que j'ai fait ma place un peu dans ce groupe. Et voilà.
Et en parlant des JO, comment se passe, par exemple, une journée type dans la peau de Kendrick en préparation des JO? Comment ça se passe avec à l'INSEP? Une journée type?
Une journée type, c'est un réveil à 8h, 7h50, 8h. Je vais au petit-déj, du coup, et ensuite j'ai entraînement, soit leçon, soit prépa physique à 10h. Donc de 10h à midi, je suis à l'entraînement. L'après-midi, j'ai souvent cours en visio, du coup, à l'EM. Ou soit je rattrape, ou soit je fais mes cours en direct. Et derrière, donc de 13h30 à 16h, je suis en cours et ensuite, de 16h30 à 18h30, 19h, je suis à l'entraînement.
Ah ouais, des grosses journées.
Oui, des grosses journées.
Et donc, dans une perspective un peu plus globale, qu'est-ce que ça t'apporte d'être sportif de haut niveau dans le quotidien, dans ta vie de tous les jours?
Je pense que... Qu'est-ce que ça m'apporte d'être sportif de haut niveau? C'est un peu... C'est un peu ce que l'escrime m'a apporté aussi, du coup. Enfin, ce que le sport de haut niveau et l'escrime m'a apporté, c'est vraiment déjà prendre confiance en moi. Je pense que j'aurais pas fait de sport et de sport de haut niveau aussi. Je pense que j'aurais pas eu confiance en moi. Je serais peut-être pas là pour faire un podcast. Je serais peut-être pas là pour parler. Et quand j'étais plus jeune, j'étais pas un jeune vraiment hyper extraverti qui parle à tout le monde non plus. Je bougeais beaucoup, mais je parlais pas à beaucoup personne non plus. Donc, je pense que c'est vraiment l'escrime qui m'a vraiment permis de m'ouvrir, de rencontrer du monde, de parler d'autres langues aussi, d'apprendre à parler un peu l'anglais, d'apprendre à bien m'exprimer. Donc,
c'est global.
C'est vraiment, je pense que ça m'a permis de m'épanouir et de prendre confiance en moi surtout.
Ok. Super, super inspirant encore. Et donc, qu'est-ce qu'on ressent quand on gagne une compétition? Fais-nous rêver. Qu'est-ce que tu ressens? À quoi tu penses en premier?
Qu'est-ce qu'on ressent? Je parlais déjà des championnats du monde junior. Qu'est-ce que j'ai ressenti à la fin des mondes juniors? Je me suis dit, waouh, directement, j'ai pensé à tous les sacrifices que j'ai faits. Directement, je me suis dit, enfin, j'ai pensé à mes parents, à ma famille, le fait que je sois parti à 15 ans. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu un aboutissement de mes sacrifices de ma jeunesse, pile poil à ce moment-là. Je me suis dit, waouh, tous les choix forts que t'as fait avant, ça paye maintenant. Donc, j'ai vraiment pensé à ça. Et ça fait comme un peu un soulagement. Tu te dis, yes, j'y suis arrivé à ce moment-là. Après, l'impression que j'ai eue, c'est que les mondes juniors s'est passé hyper vite. Du moment où j'ai mis la dernière touche au moment où on est rentré en France, tout est allé hyper vite. Que ce soit les célébrations, la médaille, la remise des médailles, enfin, ça allait super vite. Et je pense que c'est pour ça que les champions, ils retournent à l'entraînement même après avoir gagné. C'est parce que ça passe tellement vite, ce moment de joie, t'as qu'une envie, c'est de retourner à l'entraînement, travailler encore plus dur pour revivre ça.
Ouais. Okay. Et donc, tu gagnes aussi, tu es double champion des compétitions universitaires. Comment ça se passe? Pour les compétitions universitaires, est-ce que c'est différent que les juniors?
Oui, c'est différent. Déjà, il faut être en études, du coup, à l'université. Et c'est une sélection un peu en interne, du coup. C'est un peu les championnats du monde B. Cette année, c'était avec les moins de 27 ans. Et Donc c'est le coach, du coup Hugo Brie, du coup qui a fait les sélections. Et au début c'était dur parce que je sortais d'une année un peu compliquée en termes de résultats où j'ai pris beaucoup de coups cette année, beaucoup de déceptions. Et il me sélectionne quand même, donc c'était une preuve de confiance. Quand il me sélectionne, il me dit je te prends, mais t'as intérêt d'assurer. Et je pense que j'ai répondu présent au bon moment, et c'est ce qui me permet du coup par la suite de re-rentrer dans le groupe et dans le groupe qui part en Coupe du Monde, et voilà. Donc c'était vraiment c'est vraiment une sélection en interne, et après voilà.
En parlant du Gobri, quelle est ta relation avec lui? Est-ce que c'est un petit peu comme un père pour toi, comme un entraîneur, comment tu le ressens, comment c'est d'être avec quelqu'un d'aussi incroyable à tes côtés pour te former?
D'abord, c'est quelqu'un de très charismatique. Très, très charismatique. Très, très rigoureux dans ses mots, dans son entraînement. C'est quelqu'un de très, très rigoureux. Et pour moi, c'est quelqu'un qui peut t'emmener au sommet. Mais c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, forcément, parce que c'est un entraîneur de haut niveau. Après, comment je le vois, je pense que c'est mon entraîneur. Forcément, c'est une relation particulière parce que je sais que les entraîneurs, ça change tous les 4 ans. Donc, je ne peux pas forcément m'attacher à un entraîneur en particulier parce que ça se trouve, dans 6 mois, il sera plus là. Donc, forcément, j'essaie de le voir comme un entraîneur qui est là pour m'emmener là où je rêve d'arriver. Et voilà, donc... clairement, parce que l'année prochaine, ça se trouve, il sera peut-être sur le banc en face de mon adversaire. Donc, je le vois comme un entraîneur et qui peut m'emmener là où je rêve d'arriver, en tout cas.
Ok. Tu fais preuve de tête froide. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans l'avenir.
Oui, c'est ça. Bien sûr, il faut parce que c'est du sport de haut niveau. C'est du sport. Aujourd'hui, il est avec nous. Demain, il peut être sur le banc en face. Forcément, mais j'aurais toujours ce respect pour lui parce que je pense qu'il m'a apporté quand même beaucoup de choses déjà en me recrutant à INSEP et tout ce qu'il m'a appris, que ce soit en escrime ou même dans la rigueur de vie ou même dans la rigueur à l'entraînement, dans le fait de se dépasser tout le temps. C'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux dans l'entraînement et ça m'a vraiment donné une ligne de conduite et je pense que je suis prêt pour... Après ça, je serai prêt pour n'importe quel entraîneur derrière, en tout cas, et voilà.
Ok, je vois. Et donc, en même temps, tu fais aussi une formation d'EGEPS. Donc, tu as reçu ton diplôme d'état de maître d'armes. Tu dis que c'est un premier pas dans le monde professionnel. Comment tu vois ça? Est-ce que tu as pour projet de devenir enseignant, d'escrime peut-être plus tard? Comment tu vois ça pour l'avenir?
Alors oui, c'était une vraie fierté du coup d'avoir mon diplôme de maître d'armes, parce que le maître d'armes c'est l'entraîneur d'escrime. Donc c'était déjà une vraie vraie fierté. Je remercie du coup la Fédération française d'escrime d'avoir créé ce parcours sportif de haut niveau. Donc on avait des cours d'entraînement, on va dire, des cours pour devenir entraîneur à l'INSEP. C'était tous les mardis. Donc c'était une formation aménagée pour nous. Okay. Et donc je remercie encore d'avoir créé ça. Donc, franchement, dans le futur, oui, ce serait vraiment un vrai objectif de devenir entraîneur. Parce que vraiment, j'adore l'escrime. Je pense que je suis un passionné. Et je sais pas si l'entraînement de haut niveau, c'est ce qui m'intéresserait, parce que je pense que j'aurais vu assez de haut niveau dans ma carrière. J'espère atteindre les sommets dans ma carrière. Après, là où j'aurais bien aimé, c'est vraiment développer l'escrime dans la Caraïbe et aux Antilles. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel, mais il n'y a pas beaucoup de moyens. Et pas seulement l'escrime, mais le sport en général. Développer ça un peu aux Antilles et voir ce que je peux faire par la suite.
Justement, l'été dernier, à l'Institut martiniquais du sport, tu organises une deuxième édition du stage d'escrime pour la jeunesse martiniquaise. Donc, tu as envie de voir plus d'escrimeurs martiniquais. Comment s'est passé cet accompagnement, l'entraînement? C'était pendant l'été, c'est ça? Donc, sur une ou deux semaines?
C'est ça, c'était pendant une semaine, du coup, en Martinique, où j'avais vraiment l'objectif du stage, c'était vraiment de leur apporter un peu ce qui se passe dans l'Hexagone, parce que Martinique, c'est loin, donc c'est pas tous les jeunes qui ont les moyens de partir en stage dans l'Hexagone, de se faire connaître par les entraîneurs, donc c'était vraiment, l'objectif, c'était vraiment ça, de leur apporter cet entraînement-là, cette expertise de certains entraîneurs en Martinique pour que eux ils aient une vision, parce que je pense que c'est ce qui manque en Martinique en ce moment aux jeunes, c'est qu'ils n'ont pas forcément la vision de la suite. Ils se disent bon ben je fais de l'escrime, c'est cool, c'est sympa, je suis avec les copains et tout, mais à partir de 15-16 ans ça devient difficile parce que ils savent pas forcément, enfin ils rentrent souvent au lycée et ils n'ont pas forcément cette vision de je peux partir en Guadeloupe pour continuer à se rire, je peux partir dans l'Hexagone pour continuer. Donc j'ai vraiment essayé de leur apporter ça pour leur faire comprendre de rêver aussi, de rêver plus grand et de se dire bah si je suis bon bah pourquoi pas continuer et pas forcément dans le haut niveau mais même continuer l'escrime, continuer et puis il y a plein d'opportunités dans l'escrime, il y a l'arbitrage, il y a l'entraînement, il y a le haut niveau, donc ouais, juste continuer et puis ce que vous aimez.
Super. Et t'as vu des perles rares là-bas?
Il y a beaucoup de talent. Mais ça m'a fait bizarre en fait de retourner parce que il y en a certains avec qui j'ai pas tant d'écart d'âge que ça. Ils avaient 19 ans, j'ai 22 ans. Donc ça me rappelait un peu quand j'étais plus jeune, quelques années, il y a peut-être 9-10 ans auparavant, où je m'entraînais avec certains d'entre eux, je me suis entraîné avec certains d'entre eux. Donc ça m'a rappelé des bons souvenirs et puis le fait de passer un peu juste pendant cette semaine-là de l'autre côté, du côté entraîneur, bah c'était cool, j'ai bien apprécié et oui je pense qu'il y a de bons talents mais il faut vraiment leur donner les moyens de s'exprimer et puis et la confiance, leur dire qu'ils peuvent réussir s'ils travaillent bien, s'ils se font confiance et puis leur donner les bons moyens de réussite en faisant des compétitions dans l'Hexagone, en leur donnant les moyens de partir déjà et voilà.
Super intéressant. J'imagine que ça a dû être une grande fierté de pouvoir faire ça, d'organiser ça. Super inspirant. Et donc, pour enchaîner du coup sur les compétitions, les fiertés que ça peut apporter, lorsque nous avons échangé avant ce podcast, tu m'as dit une phrase qui m'a marquée. Tu m'as dit « Je suis un peu déçue du résultat, mais c'est un bon signal qui me fait retourner au boulot ». Donc ça, c'était suite à ta compétition à Doha. Comment ça s'est passé ?
Ah oui, Doha, ça s'est passé très très moyennement. Je suis un peu déçu du résultat parce que je sortais de deux. Du coup, en escrime, on a ce qu'on appelle le tableau principal. Quand tu rentres dans le tableau principal, c'est là où tu marques des gros points, donc c'est déjà bien. Et là, malheureusement, c'était la première Coupe du Monde de la saison où je rentrais pas dans le tableau principal. Et je sortais d'une très 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 bonne première partie de saison où je fais médaille au championnat de France élite. Et je pense que après ça, je me suis un peu pas reposé sur mes lauriers, mais j'étais un peu plus cool. Et directement, je pense que je l'ai payé cash parce que c'est pour ça que vraiment je me suis dit c'était vraiment un signal en fait. Où Kendrick, tu fais pas assez. Kendrick, tu t'es trop reposé. Maintenant, faut retourner au travail. Si tu veux viser un peu plus haut, ben faut que tu fasses beaucoup plus que ce que t'as fait ces dernières semaines-là avant Doha. Donc voilà, et là depuis Doha, je suis retourné au boulot et je travaille dur pour que ça paye beaucoup plus sur les prochaines compétitions.
C'est dingue de puiser dans les moments plus bas comme dans les moments plus forts pour être motivé. C'est vrai que super motivant. J'ai compris du coup que tu étais un caractère très motivé, etc. Mais au quotidien, c'est pas dur de tout allier en plus de faire face à quelques échecs, entre guillemets, ce qui fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau. Est-ce que tu aurais des tips à nous donner, nous qui ne sommes pas sportifs de haut niveau, mais qui avons parfois des petits couacs, on va dire, du quotidien? Comment tu puises dans ça pour avoir toujours autant de motivation?
En fait, je me dis que c'est le chemin, en fait. C'est le chemin, forcément. Et puis, je pense vraiment toujours à d'où je viens. Je me dis, tout ce que j'ai fait, l'escrimeur que j'étais, le jeune que j'étais quand j'étais en Martinique, je me dis que tout ce que je prends, c'est un plus, en fait. À chaque fois, même si ça fonctionne pas, après, ça va fonctionner. Mais tout ce que je fais, c'est un plus, c'est un plus, c'est un plus. Et puis, je reprends, je me dis à Kendrick, juste le chemin tu parcours, c'est déjà incroyable, donc ça peut être que du plus, donc quoi qu'il se passe.
Et donc pour les JO à Paris cette année, qu'est-ce que tu attends? Comment tu vois la chose? Est-ce que tu as un moment fort des JO d'escrime dont tu veux nous faire part et que tu espères pouvoir concrétiser cette année?
Un moment fort, en plus de la victoire de l'équipe de France et PEM en 2016, je pense que la victoire de Romain Canon en 2021, ça a fait rêver tous les escrimeurs et je pense que beaucoup de sportifs français en général, même beaucoup de sportifs internationaux aussi. Donc ouais, je pense que cette victoire de Romain Canon, ça nous a tous fait rêver, ça nous a tous donné envie. Et pour m'entraîner de temps en temps avec lui, je comprends. Au début, quand il gagne, j'étais un peu comme tout le monde, je me disais, waouh, quelle surprise, c'est incroyable. Mais quand tu t'entraînes avec le personnage, quand tu découvres qui est ce sportif, tu te dis, ouais, c'est normal. Enfin, c'est un exemple de rigueur, c'est un exemple de travail. Et avoir un mec comme ça dans un groupe, ça peut que pousser vers le haut. Et quand t'es jeune, t'entraîner avec Romain, je pense que ça te pousse vraiment à te dépasser. Enfin, quand tu vois tout ce qu'il fait à côté de l'entraînement, tout ce qu'il fait à l'entraînement, tout le dépassement de lui, tout ce qu'il a, bah, franchement, ça te donne juste envie de t'entraîner comme lui, même si je pense que parfois c'est un peu compliqué parce que pour moi, Romain, c'est un acharné. Mais essayer de s'y rapprocher, c'est déjà quelque chose. Et donc oui, je pense que Romain Canon en 2021, c'est vraiment un exemple à suivre.
Ok. Et donc, qu'est-ce que tu vois pour cette année, pour les JO au niveau de l'escrime? Quel projet, quelles évolutions tu penses que ça va apporter? Comment ça va au niveau de l'escrime? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer?
J'espère qu'il y aura beaucoup de médailles pour l'escrime française en général. Et puis, plus particulièrement déjà pour mon groupe, pour les PEOM. Et comme je dis, que j'y sois ou que j'y sois pas, j'espère qu'il y aura des médailles en indiv et en équipe parce que en France, on est quand même un groupe assez soudé. Et quand il y en a un qui gagne, ou une équipe, ou l'équipe qui gagne, c'est quand même tout le groupe aussi qui gagne parce que on s'entraîne tous ensemble. Forcément, on se dépasse tous ensemble. On se bat pour aller chercher déjà une sélection à l'indiv. Et plus le niveau global est fort, plus on a des chances d'aller chercher des médailles. Donc forcément, quand on en a, c'est aussi tout le groupe qui gagne. Donc clairement, oui, des belles médailles. Et surtout la plus belle, l'or à Paris, ce serait vraiment le top. Après, que j'y sois ou que j'y sois pas, bon, on verra.
C'est
l'avenir, on nous le dira. Et si je fournis assez d'efforts, dans le bon sens, j'espère que j'y serai. Et sinon, je repartirai sur une nouvelle Olympiade et je me donnerai à fond encore sur la prochaine. Et voilà.
Ok, super. Et bien, pour finir, en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et pour cette année?
Pour l'avenir et cette année, je pense déjà à la santé et la motivation. Parce que j'ai dit la santé, la motivation et le reste, j'irai le chercher. Parce que si j'ai ces deux choses-là, je pense que je peux pousser au maximum, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Et après, c'est à moi d'aller chercher le reste.
Eh bien, je te souhaite tout ça. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'être venu au Café des Sports. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter avant de finir l'épisode?
Ouais. Déjà, je voudrais remercier vraiment mes partenaires, la team Corum et la team la Marina du Marin et aussi la région Martinique qui me soutient. Et bien sûr, mes parents.
Super. Eh bien, c'est fait. Et j'espère te retrouver du coup au JO. On croise les doigts.
On croise les doigts.
Ouais. Et merci encore d'être venu au Café des Sports.
Merci à vous.
Pour cet épisode de la rubrique JO du Café des Sports. Merci de nous avoir écoutés et j'en profite encore une fois pour remercier l'invité du jour. On espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À la prochaine !